qui assure efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée, Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Rêver, c'est universel. S'éveiller avec en tête le souvenir d'une expérience nocturne. Certaines images heureuses, d'autres désagréables. Un songe singulier, un rêve répété. Des visions banales qui reflètent la journée écoulée ou des scènes surréalistes qui transportent dans des mondes inédits. Des fantasmes insensés, des cauchemars. Avec l'envie de savoir ce que ces rêves disent de nous, de comprendre le sens de cette activité nocturne, parfois, souvent, involontaire. Au-delà de l'interprétation promise par la psychanalyse, les rêves sont devenus aussi objets de recherche, un matériau étudié en laboratoire, électrode sur le crâne, sur le visage, pour déterminer s'il existe au cours de la nuit des moments propices pour rêver, pour déterminer si certaines zones s'activent précisément lorsque l'on rêve d'amour ou d'aventure. Et si les rêves peuvent libérer, d'autres peuvent épuiser et perturber au réveil. Certains cauchemars peuvent accompagner des troubles du sommeil ou de l'humeur. Car on va le voir au cours de cette émission, les rêves, c'est aussi une question de santé. Ces rêves dont on parle avec vous, docteur Fabienne Kremer, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en studio. Vous êtes psychanalyste. On va retrouver tout à l'heure en direct de Lausanne, des studios de la RTS, la radio-télévision suisse, docteur Francesca Ciclari, neurologue, spécialiste du sommeil, chef de clinique au centre hospitalier universitaire de Lausanne. Et puis en deuxième partie d'émission, nous retrouverons cette fois en ligne du Sénégal Oumou Kane, psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan de Dakar. En fin d'émission, on fera le point sur la 13e semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse avec le professeur Jean-Hugues Dalle, directeur du programme de grève de cellules souches hométopoïétiques à l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. Et puis bien sûr, le numéro de l'émission pour poser vos questions, pour témoigner aussi. Ce numéro, c'est le 33 84 22 75 75. On connaît l'expression « plonger dans les bras de Morphée, ce dieu des rêves de la mythologie grecque, fils du sommeil et de la nuit, intérêt porté aux rêves », on le comprend, ça ne date pas d'hier. Docteur Fabienne Kremer, cette volonté des hommes, des femmes et même parfois des enfants de comprendre le sens de ces rêves depuis l'Antiquité, est-ce que finalement rêver c'est une pratique universelle ?
Ah oui, c'est une pratique universelle et totalement indispensable. On sait que si on empêche les gens de rêver ou si on les empêche de dormir, d'ailleurs, on ne survit pas très longtemps.
C'est même une pratique de torture.
Oui, c'est une pratique de torture, c'est absolument indispensable. Et vous parliez de l'Antiquité, on a retrouvé, je crois, des peintures sur les grottes, etc., qui laissent sous-entendre que déjà on s'interrogeait sur la signification des rêves. À des époques extrêmement retirées. Donc, bien entendu, tout le monde rêve, dès notre plus jeune âge, même le nourrisson rêve. Donc, c'est universel.
Et pourquoi on se souvient davantage de certains rêves que d'autres ? Et même, est-ce qu'il y a des personnes qui se remémorent mieux leurs rêves que d'autres ? Est-ce qu'on peut s'y entraîner, par exemple ?
Alors, il y a des gens qui disent se souvenir extrêmement bien de leurs rêves et d'autres qui disent ne se souvenir jamais de leurs rêves. Donc, en effet, il y a deux types de possibilités par rapport à ça. Et certains, en consultation par exemple, vont être très friands. Ils vont me raconter quasiment à chaque fois un rêve. Là où d'autres me disent, moi je me souviens d'aucun rêve. Alors, vous parliez tout à l'heure de quels sont les rêves dont on se souvient. En général, c'est ceux qui nous marquent, je dirais. C'est ceux qui parlent le plus, ceux qui nous disent quelque chose. Et à la question, est-ce que l'on peut essayer d'apprendre à se souvenir de ses rêves ? Oui, il y a une technique, il y en a deux même. La première technique, c'est de s'endormir en disant « je me rappellerai de mes rêves ». Mais encore faut-il se souvenir qu'il faut s'endormir en se rappelant de ses rêves. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne assez bien et nous, on le propose en thérapie régulièrement. Et l'autre technique, souvent on a des rêves dans la nuit qui nous réveillent. Et si on les notait sur le moment, on se dit « oh, je m'en souviendrai demain matin » et le lendemain matin, on s'en souvient pas. Donc, il faudrait peut-être avoir un petit carnet à côté de soi et les noter dans l'instant.
Vous avez utilisé le mot de thérapie, justement, docteur Fabienne Kremer. Mmh. Dans quelle mesure ces rêves ont un rôle à jouer dans l'équilibre psychologique ?
Alors, Pendant la nuit, on pense que pendant le sommeil et à travers les rêves, le cerveau effectue ce qu'on pourrait dire une sorte de nettoyage. C'est-à-dire que tous les événements de la journée sont retraités, entre guillemets, sont retravaillés, sont éliminés. On pense même que ça génère des toxines qui sont éliminées par les reins ou par le foie. Et à travers ce moment-là, on sort reposé grâce aux rêves et grâce à la nuit que l'on a passée.
Alors justement, le bon moment pour rêver, on va retrouver en direct de Lausanne, docteur Francesca Ciclari. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a un moment particulier, un meilleur moment que l'autre au milieu de la nuit, au début de la nuit, voire en fin de cycle de sommeil, pour rêver ?
Alors, de manière générale, on peut rêver tout le long de la nuit. C'est vrai que les rêves changent en fonction du moment de la nuit. Et le moment où les rêves sont les plus vifs, les plus longs, où ils contiennent une histoire, souvent avec une narrative relativement complexe, c'est en fin de nuit, dans un stade qu'on appelle le sommeil paradoxal, ou également le sommeil REM, qui vient de Rapid Eye Movements en anglais, mouvement oculaire rapide, parce qu'à ce moment-là, on voit que les yeux bougent rapidement, comme si on voyait un peu une scène animée. Et c'est à ce moment-là, le matin, qu'en général, on a ce genre de rêve. Mais on peut avoir des rêves aussi dans d'autres moments de la nuit.
Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité du cerveau, activité cérébrale, lorsque nous sommes en train de rêver, Dr Francesca Ciclari ?
Alors, si on prend ce fameux stade du sommeil paradoxal ou sommeil REM, ce qu'on voit, c'est que l'activité du cerveau est très rapide, un peu comme quand on est réveillé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce stade sommeil paradoxal, parce que paradoxalement, le cerveau apparaît réveillé alors qu'il s'agit d'un vrai sommeil. Et ce qu'on a commencé à comprendre, en fait, au fur et à mesure des dernières années, c'est que le sommeil, il touche pas tout le cerveau en même temps, comme on croyait avant, mais il peut se retrouver dans certaines zones du cerveau dans d'autres zones. Et typiquement, ce qu'on voit, indépendamment du stade du sommeil, c'est que quand on rêve, il y a une zone bien particulière du cerveau qui est active, qu'on a appelée la zone chaude postérieure. Ce sont les régions donc derrière, dans la partie postérieure du cerveau, et qui sont responsables, entre autres, de la vision, qui sont aussi responsables d'intégrer différentes expériences sensorielles en une expérience unique. Et on a trouvé que ça, c'est une caractéristique assez constante. Donc, quand cette zone-là, elle est active, bah souvent, quand on réveille les sujets à ce moment-là, bah, ils rapportent des rêves.
Alors, pour bien que nos auditeurs comprennent comment ça se passe, vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble un laboratoire d'études des rêves, puisque c'est justement l'un vraiment des objets de vos recherches en neurologie, Dr Francesca Ciclari ?
Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'un laboratoire où on a des chambres qui ressemblent un peu à des chambres d'hôtel, en fait, où les gens viennent dormir. Il y a un lit, il y a une télévision, il y a une table de nuit. Et on équipe les personnes qui viennent dormir chez nous d'un casque avec des électrodes qui sont posées sur la tête et qui enregistrent justement l'activité cérébrale. Et puis, la personne, le chercheur ou le technicien qui fait l'expérience, il se trouve dans une autre pièce et il voit l'activité cérébrale défiler sur l'ordinateur et il communique avec le sujet via interphone pour justement interroger la personne sur les rêves ou sur le sommeil.
Vous parlez activité cérébrale, vous parlez également contenu. Est-ce que l'on peut deviner justement le contenu de ces rêves en fonction de l'activation de certaines zones du cerveau ?
Alors, pas encore tout à fait, mais on n'est pas loin, je dirais. Donc, ce qu'on arrive à deviner actuellement en temps réel, c'est si une personne est en train de rêver ou pas. Ça, on arrive à faire avec 90% de précision. Et par contre, on a vu que quand on rêve de certaines catégories de contenu, comme par exemple des visages, du mouvement, quand on entend quelqu'un parler dans le rêve, il y a les mêmes zones du cerveau qui s'activent quand on perçoit les mêmes contenus pendant la veille. Par exemple, quand on voit un visage dans le rêve, ben on voit qu'il y a la même zone du cerveau qui s'active, qui voit également les visages pendant la veille. Et par contre, on n'a pas encore réussi à deviner le contenu en temps réel. Une équipe de chercheurs japonais, il y a quelques années, a réussi à le faire vraiment au moment de l'endormissement, où le cerveau est encore pas mal réveillé. À ce moment-là, on arrive à prédire le contenu, grossièrement, mais pas encore dans le sommeil stable.
Docteur Fabienne Kremer, vous vouliez réagir ?
Oui, j'aurais voulu poser une question, en fait.
Allez-y, prenez ma
curieuse.
Place.
En tant que psychanalyste, je me demandais si les zones du langage étaient activées pendant le rêve.
Docteur Francesca Siclari.
Tout à fait. Alors, quand on a vu que quand on entendait quelqu'un parler dans le rêve, c'est la zone qui s'active qui perçoit le langage. Et ça, c'est assez intéressant parce que normalement, quand on rêve, ben, quand on rêve de quelqu'un qui parle, on est à la fois acteur et spectateur en même temps, dans le sens qu'on prend le rôle des deux personnages. On est toujours la personne qui parle et qui écoute en même temps. Mais on a vraiment la zone de la perception du langage qui s'active, donc comme si on écoutait quelqu'un d'autre, alors que c'est nous, quelque part, qui inventons aussi la personne qui parle.
Alors, le rêve, les contenus, docteur Fabienne Kremer, est-ce que tous les rêves ont un sens, ont une signification ?
Alors, je pense que tous les rêves ont un sens et une signification. Je dis « je » parce que les avis sont assez partagés au niveau des psychanalystes et tout le monde n'a pas le même avis. C'est Freud qui disait que le rêve était la voie royale d'accès à l'inconscient. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord. En revanche, et c'est pour ça que je posais la question, moi je suis une lacanienne et chez Lacan, par exemple, on pense que le rêve n'est qu'un rébus. C'est-à-dire qu'on collerait sur du langage des images qui, de temps en temps, sont un peu... Et du coup, elles sont loufoques parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sens en elles-mêmes. D'autres vont avoir tendance à penser que, et plutôt les Freudiens vont avoir tendance à penser que c'est le lieu où on sous-entend tous nos désirs et où on essaye de les exécuter, etc.
Donc, d'un côté, on est dans le code et dans l'autre, on est dans le sens.
Oui, voilà. D'un côté, Lacan était toujours quelqu'un qui aimait bien mathématiser un peu les choses, schématiser. Donc, il y aurait une sorte de schématique proche du rébus que j'aurais peut-être l'occasion d'expliquer tout à l'heure. Alors que de l'autre côté, c'est le cas de Freud, il a plutôt tendance à dire que c'est toujours une expression de la libido, de la sexualité, etc. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette interprétation-là.
Alors justement, on va essayer d'interpréter, d'en savoir un peu plus. Docteur Francesca Siclari, docteur Fabienne Kremer, on va revenir à ce contenu des rêves, mais tout de suite, on donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ses auditeurs, c'est Boubacar, qui est en ligne du Bénin de Porto Novo. Bonjour Boubacar.
Bonjour madame, bonjour.
On vous écoute Boubacar.
Bonjour, bonjour madame.
Oui, on est avec vous, on écoute. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rêves ?
Ok, c'est ça. Je disais que j'ai fait des rêves assez bizarres, souvent, depuis l'année passée. C'est-à-dire que je rêve souvent que je suis dans l'eau. Oui, dans l'eau, soit ici dans l'eau sale, ou bien parfois même dans l'océan, ou bien parfois je suis en train de me noyer. En tout cas, tout le temps, ça tourne autour de l'eau.
Mais et vous ne nagez pas, vous ne nagez pas, c'est pas une situation de bien-être que vous nous décrivez.
C'est ça, je ne nage pas, mais soit je suis dans l'eau, soit je traverse une rivière à pied, soit parfois je suis dans l'eau sale. En tout cas, toujours ça tourne autour de l'eau. Et ça m'arrive assez souvent.
Alors, docteur Fabienne Kremer, Boubacar qui demande donc une interprétation, une explication, l'eau, mais l'eau menaçante.
Alors, l'eau dans le rêve, enfin, le rêve, c'est le moment où on déconnecte, le sommeil, c'est le moment où on déconnecte de la réalité du quotidien. C'est un moment qui nous replonge quasiment toujours dans des limbes assez archaïques de l'enfance, voire même de l'état fœtal. Et l'eau est souvent interprétée comme justement cet état fœtal, ce fait de revenir en arrière. Alors, je ne connais pas l'histoire de Boubacar, mais peut-être que son accouchement était difficile quand il était petit. Peut-être que la grossesse ne s'est pas passée comme il fallait, puisque il le vit de façon menaçante. Mais il y a deux aspects aussi, parce qu'il dit qu'il traverse l'eau. Une rivière, et ça c'est le passage d'un moment à un autre. Donc je pense qu'il y aurait à chercher dans ce sens-là, dans ce coin-là.
Et peut-être Boubacar en discuter avec votre maman, si elle est toujours de ce monde, pour lui demander comment ça s'était passé quand elle vous attendait. C'est quelque chose, vous avez des informations sur cela ?
Désolé, parce que ma maman est décédée depuis qu'elle était enfant, je suis désolé.
Donc peut-être demander à quelqu'un de votre famille s'il a des souvenirs à ce sujet. Merci en tout cas, Boubacar, de cet appel de Porto Novo. On va prendre en ligne Olivier en Guinée, à Conakry. Bonjour Olivier.
Bonjour Caroline et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Olivier.
En fait, je fais souvent des rêves. Et au cours de ces rêves, je me trouve dans l'eau et poursuivi des hippopotames. Alors comment expliquez-vous ou interprétez ceci ?
Et cette situation vous fait peur justement quand les animaux vous pourchassent, Olivier ?
Effectivement, ça me fait un peu peur.
Docteur Fabienne Kremer, cette menace par des animaux sauvages?
Alors les animaux, bien entendu, c'est une représentation un peu symbolique des gens, enfin des gens qui sont autour de lui, etc. Donc manifestement, en ce moment, il se sent pourchassé dans quelque chose d'essentiel ou peut-être que vous vous sentez un peu menacé ou trop ou harcelé, je ne sais pas, sur un sujet particulier. Après, moi, en tant que lacanienne, je m'interroge sur hippopotame. C'est-à-dire que si je devais avoir Olivier en séance, je dirais, mais l'hippopotame, ça représente quoi pour vous? Ça vous évoque quoi? Est-ce que dans votre enfance, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, l'hippopotame a eu un sens particulier? Parce qu'il s'agit de dérouler, c'est un fil si vous voulez le rêve, donc il s'agit de dérouler ensuite ce fil-là.
Dans votre expérience du vécu, Olivier, vous avez eu une rencontre avec des hippopotames, être témoin d'une scène impliquant ces animaux?
Oui, bon, en fait, je l'ai vu un peu, ça fait longtemps, à 10 ans quand même.
Et vous avez eu peur?
Oui, j'ai eu peur, effectivement.
Donc, du coup, l'hippopotame, c'est ça. C'est pour vous, c'est pas que vous avez peur des hippopotames, mais quand ils s'invitent dans le rêve, ils signent la peur, la menace extérieure, la crainte. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très peureux d'habitude, et là, d'un seul coup, vous avez rencontré une sensation. Donc, aujourd'hui, il se passe certainement quelque chose dans votre vie qui vous angoisse, qui vous fait peur. Et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en évidence.
Voilà, Olivier, pour cette explication. Tout à l'heure, on va reprendre d'autres auditeurs en ligne. On sera notamment en ligne avec Ahmed. Cette question, docteur Fabienne Kremer, pourquoi certains rêves se répètent, voire des fois tournent à l'obsession?
Alors, c'est ce qu'on appelle les rêves traumatiques. On conseille souvent, d'ailleurs... Alors, ils peuvent survenir après un traumatisme. Ils peuvent survenir dans une période particulière où on a une difficulté particulière. En général, c'est pas des rêves qui sont agréables. Hein. Ce sont souvent des rêves qui sont inquiétants, angoissants, etc. Donc, ils soulignent une source d'angoisse qui se répète. C'est ces rêves-là, d'ailleurs, qu'il est toujours intéressant d'interpréter pour les faire céder. Parce que, en effet, ça peut devenir complètement obsessionnel et ça peut générer des troubles du sommeil et une crainte de s'endormir, une crainte d'être réveillée par des rêves difficiles comme ça.
Et justement, on va retrouver à Lausanne docteur Francesca Ciclari. Est-ce que d'après vos études, d'après votre expérience, vous avez constaté que certains rêves pouvaient constituer de véritables symptômes?
Oui, tout à fait. Alors, dans notre clinique du sommeil, on voit des patients pour lesquels, des fois, le rêve est la plainte principale. Donc, souvent, comme vous le disiez avant, ce sont des cauchemars qui surviennent après un traumatisme psychologique, dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc là, on travaille beaucoup avec nos collègues psychiatres. Mais après, ça peut aussi être des personnes qui se plaignent de la rêve parce qu'ils ont l'impression de rêver trop. On appelle cette condition les rêves épiques. Ils rêvent vraiment constamment toute la nuit, ils ont l'impression qu'ils sont jamais inconscients pendant le sommeil et ça les fatigue. Donc ils ont vraiment des répercussions de ces rêves excessifs pendant la journée. Et puis après, on a d'autres conditions où les gens, en fait, vivent leurs rêves. Donc, comme je disais avant, typiquement, les rêves les plus longs, les plus vifs, on les fait dans un stade qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et ce sommeil a aussi la particularité qu'on est paralysé. En fait, nos muscles sont paralysés, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet de ne pas faire ce qu'on rêve en temps réel. Et puis, il y a des personnes qui perdent cette paralysie. C'est un trouble qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil REM. Et ils commencent à faire tout ce qu'ils rêvent. Ça peut être très embêtant parce que ces personnes ont souvent des rêves agressifs. Ils peuvent attaquer le partenaire dans le lit, ils peuvent tomber du lit, ils peuvent se heurter à des objets. Donc
c'est véritablement inquiétant.
Ouais, exactement.
Vous restez avec nous, docteur Francesca Ciclari, docteur Fabienne Kremer. On va se retrouver dans quelques minutes, dans 3 minutes précisément. Ce sera après le bulletin d'information, toujours pour parler des rêves, de leur signification. Et vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75. À tout à l'heure.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux rêves, les comprendre, les interpréter. Toujours avec nous en studio, docteur Fabienne Kremer, psychanalyste et en direct des studios de la RTS à Lausanne, docteur Francesca Siclari, neurologue spécialiste du sommeil au Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne. On va reprendre un auditeur de Priorité Santé en ligne. Cet auditeur nous appelle de Guinée, de la ville de Kamsar, et c'est Ahmed. Bonjour Ahmed.
Bonjour madame.
On vous écoute, parlez-nous de vos rêves.
Alors moi, ça fait à peu près 5 ans que ce phénomène arrive constamment dans ma vie. Comme je l'ai déjà dit, je rêve constamment, toutes les nuits, sans exception aucune. Donc j'ai l'impression que quand il fait nuit, dès que je me couche, je rentre dans un monde parallèle, là où à peu près un tiers des rêves que je fais, après quelques mois, voire quelques années, apparaît soudainement dans ma vie. C'est comme si c'était des prémonitions, en fait. Je voyais un tiers de ces rêves. C'était des actions du quotidien que j'allais faire peut-être un an après. Donc, c'est quelque chose qui me pèse constamment. Je dors très peu. Même cette nuit-là, je me suis couché vers 2h du matin et je me suis réveillé vers 4h. Donc, j'ai fait quasiment 2h de sommeil parce que le rêve venait constamment. Je me réveillais et quand je me réveille, j'ai du mal à m'endormir parce que c'est comme si mon cerveau restait toujours actif.
Ahmed, vous empêchez de dormir pour moins rêver ou ce sont ces rêves qui vous empêchent de dormir? Dans quel sens ça se passe?
J'ai l'impression de ne pas dormir en fait, c'est ça le truc. En fait, c'est comme si en me couchant, je vivais une autre réalité. Je continuais toujours à être éveillé. Parce que les rêves que je fais sont très intenses. C'est comme si, oui, c'est comme si le jour qui se prolongeait dans la nuit, sauf que cette fois-ci, c'est pas des actions physiques que je fais, mais plutôt des actions mentales. Et voilà. Donc, j'ai du mal à m'endormir. Et dès que je me réveille, je ferme pas les yeux toute la journée. Il m'arrive très rarement de dormir la journée. Ceci est à 1h, mais même dans la journée quand je dors. Donc, dès que je ferme les yeux, il y a un rêve qui vient. Moi, c'est devenu un quotidien dans ma vie et je me suis dit, est-ce que c'est normal de rêver autant? Est-ce que c'est... Je suis malade.
On entend bien votre désarroi, Ahmed. Docteur Fabienne Kremer, ses rêves ne lui laissent aucun répit. Il est épuisé à force de rêver.
Et bien, c'est exactement ce que disait notre... Excusez-moi, j'ai
Docteur Francesca Siclari tout à l'heure.
C'est exactement ce dont elle parlait. Je pense c'est la difficulté à ne pas être dans les autres phases du sommeil qui sont des phases plus lentes et être tout le temps en sommeil paradoxal, tout le temps en extrême vigilance. Je crois que c'est... Enfin,
ça ressemble tout à fait les symptômes. Docteur Francesca Siclari, justement, qu'est-ce que vous préconisez à ces personnes, à ces rêveurs compulsifs?
Alors, je dirais la première chose qu'il faudrait voir est qu'il n'y a pas un problème avec la structure du sommeil, comme disait Fabienne Kremer tout à l'heure. Donc, des fois, quand on a un sommeil qui est peu réparateur, avec beaucoup de petits réveils, de quelques secondes dont on se rappelle pas forcément, on peut avoir l'impression de vraiment jamais être déconnecté de l'environnement et avoir cette impression qu'on rêve mais on ne dort pas en fait. C'est ce que Ahmed décrivait tout à l'heure. Donc la première chose, ça serait de voir s'il n'y a pas un problème dans la structure du sommeil. Pour ça, il faut consulter un spécialiste du sommeil. Parfois, ce qui peut aider déjà comme première mesure qu'il pourrait faire lui chez lui, c'est de paradoxalement raccourcir un peu la durée du sommeil. Donc se coucher un peu plus tard, se réveiller un peu plus tôt.
Oui, mais ce qu'il disait justement, Ahmed, c'est qu'il se couchait déjà très tard et qu'il ne faisait pas de sieste pendant la journée. Et puis peut-être aussi le problème, c'est que je ne suis pas du tout certaine qu'en Guinée, on ait des cliniques du sommeil. Donc vers qui se tourner dans ces cas-là? Vers quel médecin, vers quel praticien se tourner pour avoir ce type de conseil, docteur Siclari?
Alors, je pense qu'un bon généraliste, des fois, il peut faire des examens plus simples qui permettent déjà d'exclure un gros problème de la structure du sommeil, par exemple des apnées du sommeil ou d'autres choses dans ce sens-là. Donc, il y a des examens de dépistage qui sont en général disponibles un peu partout et qu'on peut faire sans avoir recours à vraiment un centre du sommeil spécialisé.
Ahmed, ce conseil pour essayer de mieux vous reposer, essayer d'apprendre peut-être à mieux dormir, aller voir un généraliste à qui vous pourriez en parler. Est-ce que vous en avez déjà parlé à un médecin?
Oui, tout à fait. Il y a à peu près un an, j'ai consulté un médecin qui m'a donné, je sais pas comment on appelle ça, un temps, qui me permettra en tout cas de dormir. Bon, j'ai utilisé le produit, mais ceci étant, je ne peux pas continuer constamment à utiliser
un somnifère. On le comprend bien, oui. Avec un problème d'accoutumance en même temps. Donc,
Moi, je m'interroge sur le métier qu'il fait.
Docteur Fabienne Kremer vous demande, qu'est-ce que vous avez comme activité? Qu'est-ce que vous faites pendant la journée comme travail?
Actuellement, je suis consultant en immobilier. Je vends des biens immobiliers. Bon, je suis à côté de ça, je suis un professionnel du sport. Je fais le basket. Donc la nuit, en principe, je me dis, ça devrait pas me gêner parce que j'ai une journée pleine et vers 18h, je fais une activité sportive régulière. Ceci étant, je me demande, pourquoi? Je n'arrive pas à expliquer. Je mange bien, voilà.
C'est complexe, effectivement.
Oui. Voilà, c'est le sommeil qui me pose problème et je me dis, des fois, je suis à bout de nerfs parce que ne pas arriver à dormir ou dormir 4 heures de temps par jour, des fois ça exaspère, ça met les nerfs à vif et tout le temps on est énervé, ça arrive. Donc c'est pourquoi quand j'ai vu le thème, je me suis dit, attends, peut-être que je pourrais avoir des conseils qui me permettront de mieux dormir, parce que c'est essentiel pour moi de dormir.
On le comprend bien, on l'a bien compris, hein. C'est difficile, c'est très complexe comme cas, Fabienne Kremer. Mais
ça ressemble plus à un trouble du sommeil en fait qu'à un problème lié au rêve, parce que c'est pas un rêve récurrent, il raconte la trop grande présence de ses rêves. Alors c'est pour ça que je posais la question du temps, parce que les gens qui sont en travail posté, qui font les 3-8, etc., ont souvent des troubles du sommeil qui s'installent. L'autre chose, c'est que j'aurais tendance à dire, on parle tout le temps de cet éternel lâcher prise, on sent que c'est quelque chose qui le soucie, donc soit il faut s'en occuper profondément, réellement, si vraiment ça le soucie, puisqu'il est déjà dans le texte, il nous disait qu'il avait peur d'avoir un problème de santé, soit il faut réussir à prendre un peu de distance par rapport à ça, parce qu'après tout, la vraie question, c'est est-ce qu'il est fatigué?
Est-ce qu'il est fatigué dans la journée? En tout cas, merci beaucoup Ahmed pour ce témoignage très fourni. Est-ce qu'on rêve de la même manière, qu'on soit aux États-Unis, à New York, en Chine, à Shanghai, à Paris, à Libreville, docteur Fabienne Kremer?
Alors, ça dépend ce que vous appelez de la même manière, le fonctionnement
sur
du
les
rêve.
Rêves, sur les contenus des rêves, les images, les vécus, mais voire
sûrement
même les
pas.
Interprétations.
Sûrement pas. Vous voyez tout à l'heure le monsieur qui nous racontait qu'il était poursuivi par des hippopotames. Je suis pas sûre que ça soit partout qu'on soit poursuivi par des hippopotames. Je pense que c'est contextuel aussi parce que le quotidien, la journée que l'on vient de passer, remplit d'images nos rêves. On utilise ce quotidien-là pour traduire d'autres messages de l'inconscient. Donc c'est extrêmement lié. On rêvera plus d'immeubles et de voilà, et certainement que là où était Ahmed en Guinée, de coq, puisqu'on entendait le coq derrière lui, voilà, ça dépend de là où on est.
Ça dépend du contexte. Alors, comment on rêve à Dakar, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes.
Priorité santé sur RFI.
Oumouli Kane, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue, oui, ça va bien. Psychologue clinicienne à l'hôpital de Fane de Dakar au Sénégal.
Alors, des enfants en pédopsychiatrie.
Alors, est-ce que chez vous aussi, les gens sont en quête d'interprétation? Ils viennent vous voir pour essayer de comprendre le sens de leurs rêves?
Ils ne viennent pas directement pour connaître le sens, mais c'est au décours d'une consultation. Et à un moment donné, quand on parle des rêves, et c'est là qu'ils commencent à dire « oui, je rêve ». Mais ce que je remarque, c'est que bon, les petits-enfants sont plus enclins à raconter leurs rêves. Et dès qu'on va vers les adolescents, plus à l'adolescence, on voit que là, les enfants disent « ah oui, non, je ne rêve pas ». Ou « j'ai oublié quand je rêve, ou je ne rêve pas du tout ».
Parce qu'il y a peut-être une forme de honte à verbaliser, à se dévoiler,
oui,
une peur
fait.
De se dévoiler.
Tout à fait. De se dévoiler ou pas, ou encore que le rêve est teinté d'éléments sexuels. Alors ils ne veulent plus en parler ou ils n'osent pas en parler.
Justement, une.
Mais le rêve constitue un élément essentiel dans la vie, je dirais même quotidienne. Du Sénégalais. Je ne dirais pas de l'Africain, je ne sais pas, mais du Sénégalais. Parce qu'on est tout le temps en train de se faire interpréter des rêves Et aujourd'hui, dans toutes les chaînes de radio, il y a toujours des interprétateurs que l'on appelle au téléphone pendant une heure pour se faire analyser ses propres rêves.
Alors, Oumoulikane, est-ce qu'ils donnent justement ces personnes, c'est un petit peu ces commentateurs de la nuit, est-ce qu'ils donnent les mêmes interprétations que vous donneriez aux patients qui viennent consulter?
Non. Parfois, il y a des analogies, il y a quelques ressemblances plus ou moins lointaines, mais bon, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que là, c'est des rêves de prémonition et on se dit, voilà, on est en connexion avec le divin et c'est un message que l'on traduit et qu'on cherche à comprendre pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que parfois, on vous dit, voilà, le rêve, ce que ça signifie, il faut faire des offrandes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a toujours des tâches à faire pour faire accomplir ou conjurer le sort que le rêve annonce. Il est toujours un message.
Quand certains psychologues disent inconscient, là, les commentateurs disent plutôt religion, esprit divin, voire superstition. Est-ce que justement certaines personnes ont particulièrement peur des messages transmis pendant les rêves?
Par
rapport justement à ce que vous disiez, des espèces de messages maléfiques, des messages négatifs.
Par exemple, des personnes qui viennent avec des enfants qui ont des problèmes de pathologie plus ou moins graves. Et la mère vous dit, pendant ma grossesse, j'avais vu ça. Et bon, des éléments qui peut-être, en tout cas, annoncer que la grossesse ou que le bébé à venir, il y aura des problèmes, par exemple.
Alors, ce contexte culturel très important dans l'interprétation des rêves, comment vous faites-vous justement quand il y a ce bagage énorme de la culture qui arrive en consultation pour réorienter les patients vers quelque chose, pas forcément de plus rationnel, mais qui va plus dans le sens de la prise en charge et de la guérison?
Oui, voilà. Il faut du temps. Et pour quand même, on accepte, on reçoit cette explication peut-être religieuse que déjà ce patient ou le parent du patient est allé voir déjà des marabouts et tout. On accepte et on essaie de cheminer avec pour arriver à quelque chose de plus, plus psychologique ou en tout cas plus proche des éléments avec lesquels nous travaillons.
Merci infiniment, Oumoulikane, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan de Dakar au Sénégal. On l'entend, docteur Fabienne Kremer. Il y a des gens qui sont véritablement terrorisés par leurs rêves.
Oui, c'est très très bien exprimé parce qu'en fait, la zone du rêve, c'est une zone hallucinatoire. Faut voir les choses comme elles sont. C'est un moment où on lâche prise avec la réalité, le quotidien, pour se laisser aller à des hallucinations. Et c'est vrai que c'est du coup une zone qui est à explorer et qui peut amener à toutes les interprétations. Moi, je ne suis pas choquée qu'il y ait des sensations, des gens qui ont l'impression qu'ils sont en train de transmettre des messages qui viennent du divin, comme elle disait, ou des choses comme ça. Parce qu'après tout, c'est un moment où on ne reconnaît rien, on n'a plus de repères, etc. Donc, je trouve très fin de plutôt travailler dans le même sens, pas dans le même sens, bien entendu, de pas soutenir obligatoirement ça, mais de ne pas laisser, on ne sait pas l'interprétation des rêves. J'ai pas la science infuse et je peux pas me permettre de dire que j'interprète mieux que les autres. Ce qu'on peut dire quand même sur les rêves prémonitoires, parce que ça, c'est intéressant, c'est que je ne crois pas que les rêves prémonitoires existent. En revanche, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins intuitifs, plus ou moins qui ont plus ou moins conscience de ce qui va se passer, et quand ils lâchent le quotidien au moment du rêve, et ben du coup leurs intuitions peuvent arriver de façon un peu plus claire.
Avec quelque chose en quelque sorte de libérateur. On va donner la parole à encore un auditeur de RFI. Cet auditeur nous appelle du Cameroun, de Yaoundé. C'est Bondièse. Bonjour Bondièse.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
D'accord, c'est un témoignage que je voudrais apporter par rapport à un rêve que j'ai vu depuis mon enfance.
Oui, nous sommes là, on vous écoute.
Ok, voilà, depuis l'enfance, je fais un rêve que presque tous les jours, ou du moins 3 à 4 fois par semaine, je rêve toujours que je suis en train de planer dans l'espace. Et très souvent, je me retrouve sur des très grandes étendues d'eau, et parfois c'est sur des grands immeubles. Et pour finir, je chute. Et juste avant de m'écraser au sol, je me réveille doucement. Et quand je me réveille justement, je me rends compte que je transpire et je tremble beaucoup. Donc c'est comme si je venais juste de courir. Donc depuis l'enfance, c'est toujours comme ça. Et je me demande si ça a une signification, si je ne sais pas. Donc ça me traumatise un peu.
Une inquiétude de la part de Bondiès, docteur Fabienne Kremer. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de ce rêve?
Alors, j'espère que je ne vais pas contrarier Bondiès. Je voulais vous poser une petite question. Parce que voyez-vous, les rêves de vol, en général, sont des rêves souvent d'origine sexuelle. C'est-à-dire, souvent, les gens sont en même temps en érection. Et le rêve est avant tout un rêve sexuel. Alors, il chute quand il commence à se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de concomitance à l'envers. C'est parce qu'il se réveille qu'il a l'impression qu'il chute et non pas... Il chute pas parce que... Et ça le réveille, donc mais il n'a pas conscience de ça. Mais il se peut que dans cette histoire-là, il y ait un peu, comme vous dites que ça vient depuis l'enfance, qu'il y ait une sorte de façon de réprimer de façon plus ou moins consciente, ou peut-être parce qu'il a eu des règles très strictes qui lui ont été données, de réprimer certains désirs sexuels. Alors je ne sais pas si je me trompe, c'est peut-être que je vais un peu loin, mais en général, ça parle de ça.
Ça parle de sexe et peut-être un petit peu d'envie.
D'envie, de désir. Voilà. Et alors, la meilleure façon, ce serait de savoir si c'est concomitant avec des érections ou avec des rêves.
Bondiès, sans vouloir aller dans votre intimité ou vous gêner, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question.
Laquelle,
c'est de savoir si vous avez une sorte de réaction physique au moment où vous faites ces rêves qui irait dans le sens d'un désir.
Non, pas du tout.
Donc voilà, c'est pas de ce côté-là.
Donc non, mais on peut dire c'est soit pas de ce côté-là, soit au contraire dans le sens du déni, enfin ou du refus ou de s'interdire quelques pensées ou quelques désirs sexuels. Donc malgré tout, c'est pas parce qu'il
voyez, le physique n'est pas là que
le physique n'est pas là que la pensée n'y est pas.
Voilà, Bondiès, est-ce que pouvait vous dire le docteur Fabienne Kremer? On va prendre une dernière auditrice en ligne. Cette auditrice, c'est Michel. Elle nous appelle du Congo Brazzaville de Pointe Noire. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
On vous écoute.
Voilà, moi mon souci, je voudrais savoir, j'ai du mal à me souvenir des rêves. En tout cas, je dors, quand je me réveille, je ne me souviens pas du rêve. Par contre, si je me souviens du rêve, ça veut dire qu'il m'a beaucoup, traumatisé et je vais y penser pendant au moins des semaines. La dernière fois que je me suis souvenu d'un rêve, elle m'a hantée pendant beaucoup de jours. Dans ce rêve, je me suis vue moi-même morte. Donc, j'ai reçu 3 balles en plein cœur, mais curieusement, je ne saignais pas. Et je me suis réveillée en sursaut. Quand je me suis réveillée, j'ai touché carrément au niveau du cœur, j'ai posé ma main sur la poitrine. Il y avait une douleur fine, une douleur vraiment, vraiment fine. Et ce rêve m'a hantée pendant des semaines, jusqu'à ce que j'y pense plus. Mais de temps en temps, ça arrive que j'y repense encore à ce rêve. En dehors de ça, toutes les nuits où je dors, ben, c'est difficile que je m'en souvienne d'un rêve. Je voudrais savoir, est-ce que c'est normal? Voilà.
Docteur Fabienne Kremer, ce rêve avec pas mal d'angoisse. En fait, on sent que Michel regrette de ne pas se souvenir de ses jolis rêves.
Oui, alors quand on ne se souvient pas de ses rêves, on regrette bien entendu les bons et pas les mauvais, puisqu'en général, c'est quand ils sont mauvais, c'est-à-dire que le message que veut nous... Parce que je répète que le rêve, c'est un message de l'inconscient qui veut remonter au conscient. Donc, bien entendu, quand le message est un peu dramatique, difficile, etc., on en prend plus conscience, c'est-à-dire on se souvient de son rêve. Si vous ne vous souvenez pas de vos beaux rêves, c'est parce qu'ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils nettoient votre cerveau, qu'ils vous apaisent, et voilà, c'est réglé, ils sont efficaces, et donc, bon, hélas, vous ne vous en souvenez pas. En revanche, je dirais que c'est une bonne rêveuse. En revanche, l'histoire du rêve qu'elle nous raconte, moi, je le trouve absolument passionnant, parce que elle aurait pu rêver d'être morte et qu'on lui ait tiré dessus, mais c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle dit, je me vois morte et j'ai 3 balles en plein cœur. Et les 3 balles en plein cœur, avoir quelque chose au niveau du cœur, ça évoque des trahisons, si vous voulez. On a l'impression que trois personnes, enfin moi j'interpréterais ça comme ça, manifestement trois personnes dans cette période-là l'ont
meurtri,
blessé et elle l'a pris et c'est affectivement qu'elle s'est sentie meurtrie. Voilà, donc c'est peut-être vers ça qu'il faut chercher.
Merci beaucoup Michel, merci pour cet appel, merci docteur Fabienne Kremer. Docteur Francesca Ciclari, comment la neurologue que vous êtes, ce sera le mot de la fin, il nous reste moins d'une minute, comment la neurologue que vous êtes s'intéresse justement à l'interprétation des rêves?
Oui, alors vous posez une bonne question parce qu'on est exactement là. Donc on a beaucoup d'expérience quelque part dans l'interprétation des rêves du côté des psychiatres, des psychanalystes, mais pour la science c'est assez nouveau de commencer à s'intéresser aux rêves. Ou je dirais c'est peut-être pas nouveau, mais on a maintenant les techniques qui nous permettent d'aller investiguer le rêve plus en détail, de trouver des signatures des rêves dans l'activité du cerveau, et je pense que c'est une approche tout à fait complémentaire à l'approche des psychanalystes et qui peut-être se rejoindra dans les explications.
Pour travailler main dans la main. Merci à vous, en tout cas, hein, en ligne de Lausanne, en direct des studios de la radio-télévision suisse, docteur Francesca Ciclari, neurologue spécialiste du sommeil au centre hospitalier universitaire donc de Lausanne. Merci infiniment à vous aussi, docteur Fabienne Kremer, de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Je rappelle que vous êtes psychanalyste.
Priorité santé sur RFI.
Et jusqu'au 18 mars, c'est la 13e semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse. S'inscrire pour sauver des vies. On en parle avec vous, professeur Jean-Hugues Dalle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du programme de greffe de cellules souches aux métaux poïétiques, je l'ai bien dit, de l'hôpital pédiatrique Robert Debré. Alors, des événements dans des grandes villes de France pour cette semaine de mobilisation, rencontrer des médecins, des donneurs, des patients greffés, poser toutes sortes de questions. Justement, cette première question, professeur Jean-Hugues Dalle, à quoi ça sert de s'inscrire sur un registre de donneurs?
Le premier but, c'est probablement de faire preuve de solidarité vis-à-vis de l'ensemble de la population, qu'il s'agisse de la population française ou de la population au niveau mondial, puisque les fichiers de donneurs sont interconnectés dans le monde. Donc c'est une façon de montrer sa solidarité et de dire, si un jour un patient d'hématologie a besoin d'une greffe de moelle et que je peux lui donner un petit peu de ma moelle pour le sauver, je suis disponible.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à la recherche, professeur Jean-Hugues Dalle, de types de donneurs particuliers?
Oui, nous avons une cible, entre guillemets, privilégiée, qui sont les hommes jeunes, les jeunes de moins de 35 ans, puisqu'en fait, ces hommes représentent 65% des donneurs que l'on va sélectionner et ne représentent que 30-35% des gens qui se sont déclarés comme donneurs potentiels. Donc les femmes sont courageuses et vont s'inscrire et sont généreuses, alors que les hommes sont un peu en retrait, alors que pour des raisons un peu compliquées d'immunologie, on préfère, quand c'est possible, recourir à un donneur mâle, masculin, et dans tous les cas à un donneur jeune. Donc c'est pour ça qu'on fait cet appel très particulier aux jeunes hommes de moins de 35 ans.
Et aux femmes pour qu'elles incitent leurs frères, leurs maris, leurs enfants, leurs fils à aller s'inscrire sur ce registre. Quels sont les patients qui ont besoin particulièrement de cette greffe de moelle osseuse, professeur Dalle?
Alors ce sont des patients qui ont une maladie de la moelle, au premier rang desquels on va penser à la leucémie, mais il y a aussi d'autres maladies comme les aplasies médulaires, quand la moelle un jour s'arrête de travailler pour une raison qu'on explique ou pas. Et puis il y a ce qu'on appelle les hémoglobinopathies, comme la thalassémie, la drépanocytose, qui sont des pathologies qui touchent certaines populations.
Que nos auditeurs connaissent très bien, la drépanocytose, et particulièrement justement par rapport à cela, même en France, est-ce qu'il faut justement appartenir à un type particulier? Je vais poser une question concrète. Quand on veut donner de la moelle osseuse à un enfant d'origine africaine ou caribéenne, est-ce qu'il faut être de la même origine ou pas?
Alors, il faut... Non, ça n'est pas une condition sine qua non, mais dans les faits, notre patrimoine génétique aux uns et aux autres est fonction de nos origines ethniques. Et bien sûr, quand on est d'origine caribéenne ou africaine, eh bien, on a essentiellement une chance de trouver un donneur dans la même population d'origine. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi qu'on ouvre les registres de donneurs de moelle à notre société multiculturelle telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Nous avons des patients d'origines différentes et nous avons besoin de donneurs qui représentent ces mêmes origines très différentes.
Et c'est pour ça qu'aussi que cet appel aux auditeurs, on peut dire aux auditeurs de Priorité Santé qui sont ici à notre écoute, d'origine africaine, d'origine caribéenne, se diriger vers qui justement pour ce don de moelle osseuse? C'est ma dernière question, il nous reste quelques secondes.
Il existe un site qui s'appelle dondemoelleosseuse.fr et puis sinon se rapprocher de l'établissement français du sang le plus proche de son domicile où toutes les informations leur seront délivrées.
Merci beaucoup professeur Jean-Hugues Dalle. Je rappelle que vous êtes directeur du programme de greffe de cellules souches aux métaux poétiques de l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission aujourd'hui. C'est Toussa Maquet, Marjorie Bertin, Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler des varices. Si vous voulez témoigner, posez vos questions. Le numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Et pour nous réécouter, rfi.fr, rubrique émission. À demain.
Priorité Santé, avec Sono Assurance, qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.